Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la bénédiction et le positionnement.
Dis bénédiction.
Bénédiction.
Positionnement.
Positionnement.
Encore bénédiction.
Bénédiction.
Positionnement.
Positionnement.
Je sais que beaucoup de gens aiment entendre parler de la bénédiction. Ben, vous allez être servis. Ouvrons nos Bibles. Nous allons lire trois passages. Premièrement, on lira 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 9. Ensuite, nous lirons Galates, chapitre 3, versets 13 et 14. Et à la fin, nous lirons Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3. S'il y a d'autres versets, vous savez, pendant que je prêche, je donne beaucoup de versets. Je pourrais vous les citer pendant la prédication. La bénédiction et le positionnement. Nous commençons par 2 Corinthiens, chapitre 8. Verset 9. Tout le monde a trouvé? Voilà. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, nous allons lire. Les bons lecteurs de la Bible savent ce qu'il faut faire. La Bible déclare, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. On répète encore. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était afin que par sa pauvreté vous soyez enrichi. Allons dans Galates, chapitre 3, versets 13 et 14. Rapidement, nous lisons. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Vous avez trouvé Galates 3, 13, 14. Lisons ensemble. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'esprit qui avait été promis. Amen. Alléluia. Ici, Christ est devenu malédiction. En fait que la bénédiction d'Abraham et son accomplissement en nous, les païens, les gens qui étaient sans Dieu. Maintenant, c'est quoi la bénédiction d'Abraham? Allons maintenant dans Genèse, chapitre 12. Nous lirons, c'est quoi, qu'est-ce que Dieu avait donné à Abraham? Genèse 12. Le premier verset au troisième verset. Genèse, c'est au début. Le premier livre de la Bible, c'est Genèse. Le tout premier livre de la Bible. Genèse, chapitre 12. 1 à 3, la Bible déclare. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Aïe. Amen. Merci pour vous asseoir. Quand un pauvre n'a rien, bien sûr parce qu'il est pauvre, il est démuni, on peut comprendre sa situation. C'est simplement triste. Mais pour moi, c'est une plus grande tragédie pour quelqu'un qui vit dans la pauvreté alors qu'il y a une richesse qui lui est réservée. Quelqu'un qui vit dans la pauvreté, dans la misère la plus atroce, sans avoir droit à quelque chose qui lui appartient ou qui lui revient de droit. Une personne qui a été spoliée, par exemple. C'est triste parce que tu diras que cette personne n'est pas simplement pauvre parce que les temps sont difficiles, mais cette personne est pauvre parce qu'il y a une injustice. C'est ce qui rend la pauvreté de cette personne ou bien l'histoire de cette pauvreté plus tragique. Quand on sent qu'il y a une injustice derrière. Et beaucoup d'enfants de Dieu vivent sans jouir des bienfaits, des faveurs de l'Éternel ou sans posséder ce qui leur revient de droit de par leur Dieu et ce que le Seigneur, leur Dieu, a accompli pour eux. Notre vie dépend de la foi. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 10, verset 38, que mon juste vivra par la foi. La monnaie que nous utilisons pour notre vie, c'est la foi. Amen. La foi qui est l'acceptation de la révélation de Dieu. Amen. C'est une attitude de confiance vis-à-vis de Dieu et de sa parole. C'est accepter ce que Dieu a révélé comme étant vrai et s'en approprier. C'est ça la foi. Et une des conséquences de la foi, c'est que la foi nous amène à expérimenter. La foi, la Bible déclare dans Hébreux 11, verset 1er. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi nous amène à être fermement assurés des choses que nous espérons. Et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, la foi nous amène à démontrer les choses qui sont invisibles. Amen. C'est une conséquence de la foi. La démonstration des choses qui sont invisibles. La foi est basée sur la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et je vous ai déjà expliqué, ça veut dire la foi vient de ce qu'on entend et on continue à entendre, de ce qu'on finit par comprendre, de ce qu'on a entendu de la parole de Christ. C'est là que vient la foi. Pas seulement entendre, mais continuer à entendre jusqu'à arriver à comprendre. La foi vient de la compréhension de la parole de Christ qu'on a entendue. Si notre vie dépend de la foi, et que la foi vient de la parole de Dieu. Donc notre vie dépend de la parole de Dieu. Nous sommes donc ce que la parole dit que nous sommes. Nous possédons ce que la parole dit que nous possédons. Nous pouvons faire ce que la parole de Dieu dit que nous pouvons faire. Nous ne pouvons pas faire ce que la parole de Dieu dit que nous ne pouvons pas faire. Et surtout, nous ne sommes pas ce que la parole dit que nous ne sommes pas. Amen. Ne me donne pas une identité hors de la parole.
Amen.
Amen. Parce qu'il y a des leçons qu'on apprend hors de la parole de Dieu. Il y a des leçons qu'on apprend hors de ce que Dieu t'a enseigné. Parce que quand Dieu est venu voir Adam après le péché, Dieu a remarqué Adam lui restait une leçon que lui ne lui a pas appris. Adam lui a dit, j'ai eu peur, je suis allé me cacher parce que je suis nu. Dieu lui a dit, qui t'a appris que tu es nu? Il y a des choses qui sont dans ta vie que tu parles tous les jours, qui ne viennent pas de l'université de Dieu, qui ne viennent pas de l'école de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui t'a appris cela. C'est le monde qui t'a appris. C'est les circonstances difficiles qui t'ont appris cela. C'est le péché qui t'a appris cela. Amen.
C'est ton père et ta mère, je ne sais pas, inspirés par quoi, qui t'ont appris. C'est la société dans laquelle tu vis qui t'a inspiré cela. Amen. Vous savez, une femme pour toi, c'est une personne féminine. Mais aujourd'hui, la définition de la femme est sujet à beaucoup de controverses. Parce que pour toi, si je vous demande, il y a combien de genres? Vous direz, on a deux sexes, you know? L'homme masculin et puis féminin. L'Allemagne vient de reconnaître l'existence d'un troisième genre, neutre. Et je vous parle de la communauté européenne, ici. Il paraît qu'il y a des gens qui sont ni femmes, ni hommes. La Bible déclare que Dieu a créé l'homme et la femme. L'homme et la femme, dans le texte original, ça dit que Dieu les a créés mâle et femelle. C'est les deux genres que Dieu a créés. Mais on nous apprend maintenant qu'il y a un troisième genre. Ça dit que ce sont des leçons, des convictions qui ne sont pas des dieux. Le monde, l'université où tu étudies, peut t'apprendre des choses que Dieu ne t'a pas apprises. Ça ne nous étonne pas. Dès le commencement, Dieu a demandé à Adam qui t'a appris que tu es nu. Après qu'ils aient eu une petite discussion avec le diable, quand Ève a discuté avec Satan, et elle a fait ce qu'elle devait faire, elle a entraîné son mari dans ce péché-là, quand Dieu est venu, il a remarqué que ces gens avaient un autre langage. Le monde peut apprendre un langage qui n'est pas de Dieu. C'est quoi la femme? On parle de la nature de la femme, on parle de ses attributs, on parle de ses droits. Mais quand tu vas en Arabie Saoudite, une femme, ça n'a même pas la même définition, bien ça n'a pas le même rôle qu'une femme ici en France ou bien une femme en Afrique. Amen. Tout dépend de ce que tu expérimentes, où tu vis, par où tu es passé, dans la société dans laquelle tu es. Alors, pour nous, souvent nous définissons nos vies, écoute-moi très bien, nous définissons des fois qui nous sommes. Ce qui est très important, c'est ça. Même la manière de nous voir dépend de la définition que nous donne notre société, là où nous vivons. Qui es-tu là où tu vis? Moi, en tant qu'une personne de teint sombre, de race noire, en France, je suis ce que le gouvernement ou bien la politique française veut appliquer sur moi, selon eux. Amen. Un noir aux États-Unis, il va être traité selon la race. Mais est-ce qu'il est réellement ce que les autres font de lui? Non. Et en Afrique, j'ai peut-être une autre personnalité ou bien une autre valeur que je n'aurai jamais peut-être ici en France. Tu auras peut-être une autre valeur que tu n'auras peut-être jamais en Chine. Des fois, nous laissons la société déterminer qui nous sommes. Quand tu finis les études, tu veux trouver un travail, tu y envoies ton CV. Quand on regarde ton CV, on voit les aptitudes, tes formations, c'est OK. Mais des fois, quand on regarde ton nom de famille, directement à cause de la consonance de ton nom de famille, la manière ça se prononce ou bien, la manière ça s'écrit, l'origine, on dis directement que tu n'es pas qualifié pour ce poste-là. Amen. C'est pourquoi ce n'est pas moi, mais l'Association pour l'égalité des chances ont voulu que désormais, qu'il y ait des CV sans nom ici en France. Ils sont en train de militer, ou bien ils ont soumis ça au Pôle emploi, pour qu'il y ait des CV sans nom. C'est-à-dire qu'on engage quelqu'un selon ses compétences, pas parce qu'il s'appelle Saraka, ou bien qu'il s'appelle Conan, ou bien qu'il s'appelle Dupuis, ou bien Dujardin. On peut regarder le CV, mais quand c'est un du jardin, on le prend. Un Conan qui est à côté, qui a peut-être de meilleures aptitudes, on met le CV de Conan à côté. Et on verra que Conan n'arrive pas à trouver le travail parce que la société définit que c'est une personne qui n'est pas compétente ou bien qui n'est pas digne d'avoir ce poste-là. Alors, la réalité que nous devons comprendre, nous, enfants de Dieu, qui vivons dans la société qui est telle qu'elle est, Dieu aussi sait que la société est comme ça, la réalité est que nous, Dieu a prévu que nous puissions vivre nos vies selon la parole de Dieu. Amen. Chaque fois que tu es enfant de Dieu, tu es juste de Dieu, tu ne veux pas vivre ta vie selon la parole, mais tu veux vivre la vie selon les normes de tes concitoyens, tu t'exposes à une souffrance que Dieu ne t'a pas réservée. Amen. Parce que le monde, le jeu dehors là,
n'est pas fer, n'est pas franc. Les dés sont pipés. Il y a la corruption. La justice est faite pour les pauvres. Non, pas pour les... Je parle de la justice, là. La loi, là, qu'on fait, c'est pour traquer les pauvres, pas les riches. C'est pour traquer les pauvres. Pour un même délit, un riche s'en sort mieux qu'un pauvre. Même pour un délit moins que ça. Un pauvre peut aller couper en prison pour avoir volé un vol à l'étalage et un riche qui détourne des millions, qui affame les familles, avec même deux employés qui se sont suicidés. Mais il va s'en tirer, après avoir volé des millions à l'État, il va s'en tirer bien, avec une petite peine, sursis et tout et tout. C'est qu'on croit être juste. Non, notre pays est basé sur les lois. Ces lois-là sont là pour opprimer les pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre. Alors, si toi tu veux vivre ta vie que... Selon les lois qui régissent ce monde, tu t'exposes à une souffrance que Dieu ne t'a pas réservée. Pour qu'il y ait équilibre, surtout, et surtout pour qu'il y ait positionnement, Dieu a prévu que nous ne puissions vivre notre vie selon la parole de Dieu. Le juste qui refuse de vivre la vie selon la parole, c'est comme un poisson qui refuse d'être dans l'eau. Alors, tu dois subir le fait d'être exposé hors de l'eau. Tu vas suffoquer et dans peu de temps, tu vas mourir. Ma vie à moi, pour qu'elle soit pleine, il faut que ce soit dans l'eau. L'eau qui est la parole, si je suis un poisson. Nous avons beaucoup de gens à l'église qui ne vivent pas la vie que Dieu a réservée pour eux. Vous savez, à un moment, il faut dire trop, c'est trop. Si tout ça, c'est la rentrée, les gens retournent à l'école, ils retournent à l'université, les gens retournent au travail. Et on va travailler comme toutes les autres personnes comme ça. Est-ce que c'est cela la vie que Dieu a réservée pour nous? On a fêté la fête du 31 décembre ici. Mais bien aimé, aujourd'hui nous sommes quoi? Le 7? Quelle date? Le 8 septembre. L'année va finir bientôt. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a eu de plus? Regarde à côté de toi, qu'est-ce qui a changé au milieu où tu vis, dans le milieu où tu vis? Qu'est-ce qui a changé? Les années passent comme ça. Mais non. Et puis, 2014, on viendra avec des résolutions que personne ne pourra tenir. Voici, cette année, je ferai ceci. Les résolutions de 2011, tu n'as pas pu tenir. On est en 2013, tu ne peux pas encore faire d'autres résolutions. J'ai lu quelques jours dernièrement en Facebook, quelqu'un qui a écrit, « I got a feeling that 2014 is going to be a better year for me. » That's what she said. J'ai la conviction, j'ai la sensation que l'année 2014 sera une très bonne année pour moi. Mais, isn't that what you said last year? Amen. C'est ce que tu as dit l'année passée, 2013. Tu es en train de voir 2013 en train de passer, rien n'arrive. Tu programmes déjà 2014. Non, bien aimé, il y a quand même encore septembre, octobre, novembre. Accepte d'abord de subir, de vivre. Peut-être quelque chose peut changer. Un jour peut enfanter un miracle pour toi. Amen. Un jour, vous pouvez enfanter. Rien n'est encore passé. Pour celui qui vit, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, dit la Bible. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la bénédiction et du positionnement pour que vous compreniez ceci. Il y a une vie que Dieu a réservée pour vous. C'est à vous de la vivre ou bien de la refuser. Mais au moins, vous avez le droit de connaître. Pour que vous puissiez savoir qu'il y a une alternative. Vous n'êtes pas obligé de vivre la vie que vous vivez maintenant. Vous n'êtes pas obligé de vivre la vie que la France veut vous imposer. Même si tu vas vivre en Angleterre, la vie que l'Angleterre veut vous imposer. Les crises sont internationales maintenant. Vous n'êtes pas obligé de vivre ces... Il y a une autre vie que Dieu vous réserve. Vous avez le droit de vivre cette vie-là. Vous avez également le droit de refuser. Dieu n'impose pas la bénédiction, il n'imposera pas également la malédiction. Il dit, je mets devant toi la mort et la vie. Choisis la vie. Dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, nous avons lu, l'âme de cas, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce, c'est une faveur imméritée. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, dans une faveur que lui nous a accordée, que nous ne méritions pas. C'est quoi cette grâce qui, pour vous,
Vous là, c'est qui? Bon, que chaque question soit quand même au singulier. Vous, c'est qui? Toi qui? Cite ton nom un peu. Tout ton nom, tes prénoms, tes deuxièmes noms, cite ton nom. Toi, c'est qui? Il y a des gens qui ont des noms. Amen. Hein? L'un des anciens présidents s'appelait Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga Joseph Désiré. Il y a des gens qui sont riches en noms. Alors, quand on lit la Bible, Dieu d'Abraham, aujourd'hui tu vas lire le Dieu, ton Dieu à toi. Amen. Parce que quand on dit Abraham, il dit c'est vieux. Non, mais non, toi, on parle de ton Dieu à toi. Tu te caches derrière Abraham. Non, Abraham n'est plus là. Maintenant, c'est toi avec Dieu. Amen. La Bible est écrite pour toi aussi. C'est pourquoi, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour Samuel, Doudou, Lusangu, Wabantu, Douglas, il s'est fait pauvre. De riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Je répète, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, tel que vous êtes là, il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. On va expliquer cette chose. Je vous donne la parole, vous recevez, vous croyez ou vous ne croyez pas. C'est votre problème. Mais j'ai un devoir de vous donner. Et ceux qui croient, l'Abbé déclare, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ceux qui vont croire vont voir la gloire de Dieu. Parce que c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé par la parole de Dieu. De sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Hébreux chapitre 11, verset 2. Amen. Selon la parole, Jésus-Christ, du riche qu'il était. Est-ce que Jésus-Christ était riche? Amen. Amen, hein? Amen. Est-ce que Jésus-Christ était riche? Amen. Vous savez que le nom de Jésus, c'est la parole, n'est-ce pas? Jean chapitre 1er, verset 14, dit ceci. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire semblable à celle du Fils unique venu du Père. Amen. Les gens contemplaient la parole qui a été faite chair. La parole a été manifestée parmi eux. Ils ont contemplé la gloire. La gloire semblable à celle du Fils unique venu du Père. Jésus-Christ, c'est le Fils qui vient du Père, qui est la parole. Il a déclaré, vous savez, il faut être capable d'avaler des versets et de rester des versets comme ça. Amen. Tu conduis la prière, tu parles la Bible sans retourner dans la Bible. Amen. Amen. Alléluia. Et Jean chapitre 1er, verset 1er dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire que la parole qui était au commencement avec Dieu, qui est Dieu, c'est la parole qui a créé toutes choses. C'est-à-dire que la parole a créé l'or. La parole a créé les diamants. La parole a créé toute forme de pierres précieuses. La parole a créé le pétrole. La parole a créé la terre. La parole a tout créé. Alléluia. C'est la parole qui a donné existence. Et l'Abbé déclare, la parole a été auprès de Dieu. Et l'Abbé déclare, dans Jean chapitre 1, verset 14 que je lis là, la parole a été faite chair. Cette chair s'est manifestée en tant que le Fils unique venu du Père. La parole qui possède toutes choses a pris chair, corps humain, le corps humain, et la parole s'est manifestée. Donc, avant que Jésus ne vienne sur la terre, est-ce que Jésus était riche? Est-ce que Jésus était riche? Est-ce qu'il était riche? Qui croit que Jésus était riche? Merci. L'Abbé déclare, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était. Il était riche, c'est un fait. Un. Deux. Est-ce que Jésus s'est fait pauvre? Amen. Est-ce que Jésus s'est fait pauvre? Amen. Alléluia. Amen. L'homme déclare, Vous savez, Jésus avait bien le droit de naître dans le palais royal. Il avait bien le droit. L'Abbé Kha, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Lequel, existant sous forme de Dieu, n'a pas regardé comme une poire arrachée d'être traité à l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en se rendant obéissant, en prenant une forme de serviteur. Amen. Le mot serviteur, là, veut dire esclave. En prenant une forme d'esclave. Jésus qui s'est dépouillé lui-même, il a pris la forme d'esclave. Amen. Amen. Il est allé avec ça jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est dépouillé pour prendre la forme d'esclave. Et ce n'est pas dans un palais royal, mais c'est dans un mangeoir. Ce n'est pas la belle crèche de Noël que vous voyez là, non. Qui connaît la ferme? Qui est déjà allé à la campagne dans une ferme? Bon, oublie la ferme de France, ce sont des fausses fermes. Va dans une ferme en Afrique. Ok? Vous voyez la ferme en Afrique, maintenant au 21e siècle. Vous voyez comment c'est sale, comment ça sent mauvais. Imaginez maintenant une ferme de l'Antiquité en Israël. Chez ces gens-là. Amen. Elle était odieuse, horrible, sale, infecte. Tu ne peux pas prendre cet enfant, mettre bébé Mariella à une ferme en France ici. Amen. Tu ne peux pas mettre bébé Mariella là où il y a les fermes françaises propres. Tu ne mettras pas ce bébé là. Mais une ferme en Afrique au 21e siècle, tu ne mettras pas ton bébé là-bas non plus. Mais Dieu a envoyé son enfant dans une ferme sale, crapuleuse, crasseuse de l'Antiquité. Il n'y avait même pas l'endroit, il y avait les hôtels, il n'y avait plus d'endroit. Dieu ne s'est pas réservé un hôtel. Il n'y avait plus d'endroit, il n'y avait que la ferme. Ça sentait mauvais. Toutes sortes d'animaux. C'est là que Jésus est né. Et là, on met la nourriture des animaux, c'est là où on l'a fait coucher. Imaginez une telle pauvreté. Il s'est dépouillé lui-même, il a pris la forme d'un esclave. Oui, c'est parce que c'est là que naissent les enfants des esclaves, dans les étables. Parce que les esclaves n'étaient pas considérés comme des êtres humains. C'était considéré des propriétés comme des animaux. Jésus-Christ est né comme un enfant d'esclave. Plus pauvre que ça, il n'y a pas. Est-ce que c'est la vérité que Jésus s'est fait pauvre? Donc, il était riche, hein? Deux, il s'est fait pauvre. Les deux principes sont vérifiés. Un, Jésus était riche avant de venir sur la terre. Deux, Jésus s'est fait pauvre. Ce verset dit ceci. Des riches qu'il était, Jésus-Christ s'est fait pauvre. Afin que, par sa pauvreté, vous vous soyez enrichi. Ok. Jusque-là, la parole a dit vrai. Il a parlé à dire vrai que Jésus-Christ était riche. La parole a dit vrai que Jésus-Christ s'est fait pauvre. Maintenant, la même parole dit que par la pauvreté de Jésus, vous, c'est pourquoi je vais demander que vous puissiez mettre votre nom. Mets ton nom. Vous, là, c'est qui c'est toi, n'est-ce pas? En même cas, par sa pauvreté, tu lis ton. You put your name, right? On va lire ce verset. Là, on parle de toi, là. Tu mets ton nom. OK? Relisons nos Bibles. 2 Corinthiens 8, 9. Je vais aller avec vous doucement, doucement. Lentement. Parce que vous qui deviez devenir, être déjà devenu de maître, mais vous êtes toujours lent à comprendre. Là, vous déclare, car moi, Samuel, le sang ou Abantou, je connais la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour moi, Samuel, le sang ou Abantou, il s'est fait pauvre des riches qu'il était, en fait que par sa pauvreté, moi, Samuel, le sang ou Abantou, que je sois enrichi. On va relire encore. Car moi, Samuel, le sang ou Abantou, je connais la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour moi, Samuel, le sang ou Abantou, il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, moi, Samuel, le sang ou Abantou, que je devienne riche, que je sois enrichi. Que ça s'écoute ton esprit. Que ça s'écoute ton esprit. Que ça bouge un peu ton esprit. Jésus, du riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que toi tu sois enrichi. C'est-à-dire qu'il était riche au ciel, c'est vrai. Il s'est fait pauvre, c'est vrai. Maintenant, par sa pauvreté, toi, tu dois être... Aïe. Pourquoi la parole se vérifie? Les deux premières parties, la troisième partie, on dirait qu'elle ne se vérifie pas. Pourquoi? Et nous sommes là, Jésus, nous t'adorons, Jésus, nous te célébrons. Bien-aimé, je vais vous dire la vérité. Nous passons notre temps. Non, nous gaspillons notre temps. Nous gaspillons notre existence. Et pour certains, même certaines plus belles années de leur vie sont en train d'être gaspillées. Amen. Je risque de vous choquer. Les gens gaspillent leur jeunesse dans la vie en Christ ici. Amen. Je me suis converti, j'avais 16 ans et demi. Amen. Nous avons vécu des années. C'est adolescent et je suis resté dedans jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est plus de la moitié. Aujourd'hui, j'ai 38 ans. Tu mets 38 à peu près moins 16 ans, ça vous donne combien? Vous avez à peu près 22 ans. Amen. Hein? Que je passe dans cette vie en Christ 22 ans. Dans n'importe quel domaine, tu es professionnel, hyper professionnel. Dans le droit, dans la médecine, peu importe, tu es hyper professionnel. Les choses de Dieu ici, je suis un professionnel. Et j'ai été consacré pasteur le 24 juin 97. J'avais 21 ans. Quand j'ai fini mes études pastorales, j'ai été consacré. J'avais que 21 ans. Amen. Aujourd'hui, j'en ai 38. Ça fait 17 ans que je suis pasteur. Pasteur en Afrique, pasteur ici en Europe et pasteur en Amérique. On a fait gaspiller notre temps dans ces choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on nous a mal prêché la parole. Rien n'est plus dangereux qu'un leader qui est ignorant. Un leader qui est ignorant garde le peuple dans l'ignorance. Et quelqu'un qui ne connaît pas ne possède pas. La Bible déclare, un esclave, un héritier, tant qu'il est enfant, il ne diffère en rien à un esclave. Parce qu'il est soumis à des précepteurs. Un héritier qui est encore enfant est semblable à un esclave. On a maintenu les chrétiens comme des esclaves. Surtout le christianisme tel qu'il est prêché en Afrique. Car je me suis converti en Afrique. On a mal exploité les versets bibliques pour nous faire croire que le christianisme, c'est un conglomérat des gens qui ont raté leur vie. Un rassemblement des gens nuls, des gens qui sont sans importance, des gens qui n'ont plus d'ambition dans ce monde. Alors, ils doivent se retrouver là dans le christianisme. Des va-nu-pieds. Retrouvez-vous là et soyez pauvres. Heureux les pauvres, le royaume de Dieu est à eux. On nous a maintenus dans cette pauvreté-là. Écoutez-moi très bien. Pourquoi? En parlant, dites-vous que c'est un intellectuel qui vous parle. C'est un universitaire que je suis, qui vous parle. Amen. Hein? Ce n'est pas quelqu'un qui ramasse l'évangile comme ça. Et on doit avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître, de remettre les faits historiques dans leur contexte. Quand les Africains ont été évangélisés, c'est consciemment en bon escient que les missionnaires sont venus leur dire « Heureux les pauvres ». Ils n'ont pas insisté sur les pauvres en esprit. Ils sont venus leur dire « Heureux les pauvres » car le royaume des cieux est à eux. Parce que ces missionnaires avaient pour but de spolier, de voler la richesse des Africains. Il y a un poète a dit, ils sont venus, nous on avait les terres, eux ils avaient la Bible, ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Quand nous avons ouvert les yeux, nous on avait leur Bible entre les mains, eux ils avaient nos terres. Amen. L'Église doit être aujourd'hui sans complexe pour dire ces choses. Amen. Ce n'est pas que c'est l'évangile qui a avili nos vies. Non. Les gens qui ont prêché l'évangile ont mal prêché l'évangile pour nous maintenir dans une espèce de bassesse. Et quand le réveil est venu, comme tous ont sorti du catholicisme et l'Église catholique a été un agent qui a travaillé pour spolier le peuple africain. j'ai un discours et c'est, j'ai à la maison, c'est comme il fait un ordre d'émission, du roi de Belge, Léopold II. Et j'avais entendu l'enregistrement audio. Je ne sais pas si c'est à ce temps-là, il y avait déjà cet enregistrement audio-là, ou bien c'était une retranscription en lisant ce qu'il avait ordonné. Comment il a ordonné, il a fait un discours devant les prêtres catholiques missionnaires qui devaient aller au Congo, le pays dont je suis originaire. Comment on leur dit d'apprendre ces gens-là à se détacher de leurs biens, de leurs richesses, de leurs statuettes. Tout ce qu'on disait aux gens, ça c'est un péché. Les statuettes-là, c'est un péché, c'est l'idolâtrie. Toutes ces statuettes-là, les prêtres ramassés, on les détruisait pas, on ne les brûlait pas. Tout se retrouve au musée des Terres Vuraines en Belgique. Va là-bas, tu verras toutes ces statuettes-là. Amen. C'est de ton pays aussi, sans ici, en France, ici. Amen. Côte d'Ivoire, Gabon, Cameroun, puis aller là-bas.
Amen.
Amen. Amen. Quand nous sommes convertis, il a été dur pour moi de poursuivre les études. Amen. J'ai des amis qui ont abandonné les études parce qu'on leur dit que Jésus revient bientôt. On avait tellement soif de plaire à Dieu que les études étaient considérées comme sataniques, démoniaques. J'ai des amis qui ont arrêté les études. J'avais un ami qui était déjà en licence quand il s'est converti. Quand il est venu, quand on est venu ensemble. Licence, pas ici, il y a comme bac plus 2 là. Licence chez nous, c'est un minimum bac plus 5. Certaines licences, c'est bac plus 6 chez nous. C'est comme master 2. Un ami qui était déjà en master 2, il avait au minimum bac plus 5. Quand il s'est converti, il a commencé à traîner avec nous, moi qui venais à peine d'avoir le bac. Et d'autres amis qui étaient des voyous, qui n'avaient pas étudié, qui faisaient des sports, qui étaient des voyous vraiment, qui se battaient avec des couteaux, qui sont convertis. Des gens illettrés. Ils traînaient avec nous ensemble et ils commençaient à parler comme nous, à faire des blagues comme nous, à avoir une bassesse dans le raisonnement comme nous. En retenant la parole de Dieu, mais dans l'analyse des choses de la vie, il est devenu comme l'un de nous. Si on te dit qu'il a ses diplômes universitaires, là, tu ne vas pas croire. Et il a arrêté, il devait poursuivre pour être docteur. Il a arrêté ses études-là pour traîner avec nous matin, midi, soir, sans rien faire. Mais on avait plaisir de se rencontrer, prier, jeûner, on sortait, on évangélisait, on priait aux jeunes. Et le bilan de la vie, année après année, rien. Et beaucoup de nos années dans notre jeunesse sont passées comme ça. Alors que des gens avec cette même Bible ont bâti des nations.
Amen.
Ont construit des empires. Ils ont enfermé leur royaume. Ils sont devenus riches. Mais nous, avec une mentalité d'esclaves, de pauvres, la Bible a été une drogue pour nous, comme les socialistes et les communistes ont dit. La religion est l'opium du peuple. Ce n'est pas la Bible qui est l'opium, c'est la religion. Mais quand la Bible est mal utilisée, la religion c'est quoi? L'ensemble des préceptes et des dogmes, tous ceux des cultes et des liturgies où l'homme cherche à atteindre Dieu. Amen. Ça devient une religion et qui appauvrit les gens. Les gens ont une telle mentalité de pauvreté, ils croient que être pauvre plaît à Dieu. Et quand on est pauvre, on est très proche de Dieu. Les gens parlent de la Bible. Écoutez, la société occidentale aujourd'hui règne, domine le monde. Ce n'était pas la seule civilisation. Il y avait la civilisation chinoise qui était beaucoup plus prospère que la civilisation occidentale. Amen.
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 Égyptienne encore. Et de d'autres nations indiennes. La civilisation occidentale domine le monde à cause de la Bible. Ils ont su exploiter à leur avantage la Bible. Et moi, je les en félicite. L'URSS, que beaucoup ne connaissent pas, parce que, autre temps, autre mœurs, les jeunes connaissent la Fédération de Russie, mais nous ne connaissons l'Union des républiques soviétiques socialistes, qui aujourd'hui n'existe plus. L'URSS, après la révolution bolchevique de 1917, hein, c'est comme ça, 17. Avec, pour cette révolution bolchevique là, l'URSS qui a émergé de là est né, ils ont chassé les tsars et tout. Ils ont voulu bâtir leur empire, leur nation sur un principe de la négation de l'existence de Dieu. Ils ont régné Dieu. Dieu n'existe pas. La religion, c'est l'opium du peuple. L'URSS est de loin plus riche que les États-Unis. En diamant, en uranium, en matière première, en pétrole, tout. Ils avaient tout pour réussir à être la nation la plus prospère. Alors que quand les Américains, quand cette nation a été créée, ils ont pris la Bible pour que la Bible devienne le socle de la loi qui va régir leur pays. Ils ont calqué leur loi par rapport aux 10 commandements de Dieu et de ce qui en découle. Ils ont dit que notre devise, ce sera en Dieu, nous mettons notre confiance. In God, we trust. D'un côté, on a dit Dieu n'existe pas. Et de l'autre côté, on dit que en Dieu, nous mettons notre confiance. On a vu deux politiques, deux manières de voir la vie différentes. Mais je vous dis, aujourd'hui, l'URSS n'existe pas. Et les États-Unis existent encore. Et c'est la nation la plus puissante. Même quand c'était les deux nations militaires les plus fortes, les gens ne savaient pas que l'URSS, économiquement, les États-Unis étaient plus forts. Mais militairement, c'est l'ancienne URSS qui était la nation la plus forte du monde. Mais quand ils se sont dispersés, leurs bases nucléaires, de missiles, se sont dispersés un peu partout par rapport aux États qui étaient devenus indépendants, ils se sont été affaiblis. Mais dans les temps, c'est eux qui avaient la puissance nucléaire la plus grande du monde. Et aujourd'hui, l'URSS n'existe plus. Qu'est-ce qui leur a empêché sans Dieu de prospérer? Les États-Unis avec Dieu ont prospéré. Je sais par principe que pour que ma vie, ta vie prospère, ça doit prospérer entre les mains de Dieu. Selon les principes de Dieu. Tous ceux qui choisissent de vivre hors des principes de Dieu vont ressembler à l'URSS. On va dire oui, on a utilisé la Bible pour exploiter les peuples. Et l'URSS a utilisé autre chose que la Bible pour exploiter également le peuple. Amen. On va dire oui, les Américains sont venus, ils ont exterminé les nations qui étaient là, les Indiens. Oui, c'est les hommes, quand ils utilisent mal la Bible, qui arrivent à ce genre de dérives. Mais ça ne remet pas en cause la parole de Dieu elle-même. On va dire ceci, mais l'URSS elle-même a exterminé des millions de ses propres concitoyens. Il n'y a jamais eu de goulag. Il y a eu, oui, il y a eu des réserves pour les Indiens, mais il y a eu des goulags en URSS. C'est-à-dire que tu es un dissident politique, on t'enferme, on t'envoie dans un goulag en Sibérie, où tu travailleras jusqu'à ta mort. Et des millions de Russes sont morts comme ça. Simplement pour vous dire ceci. Avec les années, et en étudiant la parole de Dieu plus profondément, j'ai pu constater que beaucoup de choses qu'on nous a prêchées, nous les chrétiens, surtout nous qui avons évolué en Afrique. Et je suis pasteur, je peux parler avec liberté parce que je suis pasteur en Afrique, pasteur en Europe et pasteur en Amérique. On a l'église, j'ai l'église là-bas, je ne visite pas les États-Unis. Il y a l'église à la Maison du Roi aux États-Unis. Amen. Où c'est moi le pasteur. C'est-à-dire que, en regardant les trois continents, j'ai une meilleure vue par rapport au christianisme. Et j'ai compris ceci. Quand l'évangile est mal prêché, que ce soit en Afrique, ce soit en Europe, ce soit en Amérique, ça produira des pauvres, des gens aliénés, des gens qui ne vont pas avancer. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Si on reconnaît que Jésus-Christ était riche, on reconnaît que des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Alors pourquoi, quand on regarde nos vies, on dirait que la Bible est ment, alors que dans les deux premières parties, elle n'a pas menti. Quand on vous regarde, on ne voit pas de riches. S'il y a un riche ici qui m'excuse, je parle alors pour les autres. Et nous ne parlons pas de riches par la foi. Et oh, de riches imaginaires. Sinon, viens nous payer le loyer ici par la foi. Viens nous payer le loyer de l'église d'une manière imaginaire. Achète un building d'une manière imaginaire. On parle des riches qui ont matérialisé la richesse de Dieu. Ce n'est plus au niveau de la foi, c'est au niveau du produit de la foi. Amen. Nous avons besoin du produit de la foi, des œuvres de la foi. Parce que la foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. The evidence of things not seen, dit la Bible. Pourquoi, si Jésus-Christ s'est fait pauvre alors qu'il était riche, pour que nous, à cause de sa pauvreté, moi je sois enrichi, mais pourquoi tu n'es pas enrichi? Pose-toi la question, dis pourquoi je ne suis pas enrichi? Dis pourquoi je ne suis pas riche? Dis pourquoi je ne suis pas riche? Chacun va citer maintenant son nom. Amen. Pourquoi moi, Samuel, Lusangu, Wabantu, je ne suis pas riche? Il y a eu trop de Samuel Lusangu, Wabantu ici. Pourquoi ça arrive à chaque fois? Écoutez, dis ton nom. Pose-toi la question. Amen. Let's go again. Une, deux, trois. Pourquoi moi, Samuel, Lusangu, Wabantu, je ne suis pas riche? 2 Corinthiens 8, verset 9 dit que connaissant la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, moi je sois enrichi. Donc il y a un problème. Selon ce verset, si Jésus-Christ est vrai, il était riche. 2, c'est vrai, il est devenu pauvre. On dit que à cause de sa pauvreté, je sois enrichi. Et que si je remarque dans ma vie, dans nos vies, dans la vie des enfants de Dieu, à cause de la pauvreté de Jésus, nous sommes toujours pauvres, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là au milieu. Amen. Jésus-Christ ne peut pas mourir pour tes péchés et puis tu as toujours le même péché. Et Jésus-Christ ne peut pas mourir pour que tu deviennes riche et que tu restes toujours pauvre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais nous acceptons, oh, il a. Écoute, si tu n'as pas la foi, ce sont les mêmes versets. Amen. C'est à la même croix. Amen. Alléluia. À la même croix là. Quand il s'est dépouillé jusqu'à la mort, à la mort de la croix. À la même croix, quand il disait tout est accompli, il disait tout est accompli et pour nos péchés, tout est accompli et pour notre pauvreté, à la même croix. Amen. Il s'est dépouillé pour qu'il soit enrichi. Et à la même croix, l'homme déclare que par ses meurtrissures, les plaies qu'on lui a fait là, les blessures, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. À la même croix, nous avons été guéris. Si tu crois au pardon des péchés, tu dois croire également à tous les autres acquis de la croix. Amen. Amen. Sinon, tu ne crois même pas au pardon de tes péchés. Tu te trompes toi-même par des faux raisonnements. Pourquoi alors les chrétiens ne sont pas riches? Les chrétiens obtient le pardon de péché. Pourquoi? Parce qu'ils croient fermement en cela. Pourquoi? Parce qu'ils en ont besoin. Pourquoi ils en ont besoin? Parce que leur conscience les accuse. Dieu a mis en chacun de nous la conscience. Amen. Ça veut dire que si notre conscience nous accuse, Dieu est encore plus grand. C'est-à-dire que notre conscience nous accuse ou bien nous justifie tour à tour. C'est ce que dit la Bible. Amen. Les Romains. Dans notre conscience, tu sais que tu as péché. Et tu sais que le salaire du péché, c'est la mort. Tu sais que Hébreux chapitre 9, verset 27 dit que il est recommandé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est-à-dire qu'au dernier jour, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée devant Dieu. Jésus a dit que je reviens bientôt et j'ai ma rétribution avec moi. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Dès le dernier jour, les uns ressusciteront pour la vie éternelle et les autres pour la mort, l'opprobre éternel. Tu sais que l'enfer existe. La peur de l'enfer que tu as a suscité un grand besoin en toi. Alors, dès que tu as reçu la révélation que Jésus peut pardonner tes péchés, tu t'es accroché à cette révélation et la parole a fait ses effets dans ta vie. C'est pourquoi tes péchés ont été pardonnés. Non seulement tes péchés ont été pardonnés, mais la puissance transformatrice qui est dans la parole de Dieu a agi en toi. La déclaration de Jésus-Christ, la nuit de Dieu sans tâche, purifiera votre conscience des œuvres mortes de la chair, afin que vous puissiez servir le Dieu vivant. La puissance du sang de l'agneau a purifié ta conscience. C'est pourquoi tu es capable de servir Dieu. Parce que tu as eu foi en cette parole. La parole a eu des effets en toi. Tu es purifié, tu es pardonné. Les péchés que tu faisais hier, tu ne les fais plus aujourd'hui parce que la parole t'a purifié, le sang t'a purifié. Alléluia. Mais par rapport à la pauvreté, les chrétiens ne considèrent pas cela comme un acquis. Et ils ne manifestent pas un grand besoin de vivre ce que Dieu a déclaré de la parole. Pour les péchés, à cause de leur peur, ils ont eu ce besoin d'avoir le sauveur, mais ils ne savent pas que la pauvreté vous met en danger. Et le mot salut, en grec soteria, ça veut dire le fait d'échapper à un danger. La pauvreté te met en danger. Le salut, dans le salut, il y a également l'enrichissement. la bénédiction. La pauvreté doit être ôtée de ta vie. C'est pourquoi à la croix, Jésus n'a pas oublié la pauvreté. Les chrétiens croient que Jésus est mort seulement pour leur péché. Ça, c'est acquis. Maintenant, je veux vous dire ceci. Si tu ne sais pas que Jésus est mort également pour que, à cause de sa mort, lui qui s'est fait pauvre, pour que toi, tu sois enrichi. Si ça ne devient pas une révélation, une vérité pour toi, tu vas perdre les années de ta vie comme ça. Tu vas vivre une vie qui n'est pas la tienne. Tu vas être dans un appartement alors que tu dois avoir une maison. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas être dans une relation de fiançailles qui dure déjà 5 ans et vous vivez dans la fornication, vous couchez ensemble dedans. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les moyens pour te marier. Or que si tu avais l'argent, tu serais marié, vos rapports sexuels seraient bénis, légal devant Dieu. Vous avez envie de vous marier, mais à cause de la pauvreté, vous continuez à être dans le péché. Vous comprenez cela? Parce qu'il n'y a pas l'argent pour se marier. La pauvreté, il y a des péchés qu'on ne commet pas quand on est riche. Tu as volé qui? Amen. Il y a des péchés comme avoir la jalousie, jalouser les autres là quand ils réussissent. Non, tu ne peux pas avoir ça parce que tu sais que tu en as. Il y a des péchés qui n'appartiennent qu'aux pauvres. Les riches aussi ont leurs péchés. Mais il y a des péchés qui n'appartiennent qu'aux pauvres. Et les péchés des pauvres, c'est dégueulasse. Amen. Les péchés des riches atteignent les sociétés. Les péchés des pauvres atteignent les individus. Ce qui fait qu'un pauvre nuira directement à celui qui est à côté de lui. Mais un riche qui est en France, ses péchés vont se manifester en Afrique. Là, il envoie les armes pour piller les minéraux. Je ne rate jamais ces gens. Hein? Amen. Hein? Amen. Alléluia. Le péché d'un riche américain va se manifester en Libye ou bien en Irak. Bon, bientôt, leur péché va se manifester en Syrie. Les drones qui bombardent les petits enfants qui meurent. Amen. Hein? Amen. Mais le péché d'un pauvre, ça atteint celui qui est à côté de lui. Parce qu'un pauvre va nuire à qui? À celui qui est à côté de lui. Amen. Donc, si ta soeur est pauvre, elle va te nuire. Je te l'ai dit, c'est moi qui te l'ai dit. Tu dois être préparé à cela. Amen. Hein? Amen. Si ton cœur était comme ça, élargis ton cœur d'amour. Amen, hein? Amen. Je sais que la pauvreté de ma soeur peut me nuire. J'ouvre déjà mon cœur. Je me prépare à la pardonner. Je la pardonne avant qu'elle me fasse du mal. Amen. Amen. Ne sois pas surpris. Oh, ma pauvre soeur, elle m'a fait ceci. Mais elle est pauvre. Le cœur qu'elle a là, ça peut être guéri que par la richesse. Ou bien par un changement de mentalité. Ton frère, ton oncle. Amen. Tu envoies quelque chose à ta mère. La soeur de ta mère se fâche. Comme si quand ta mère était enceinte de toi, elle aussi avait partagé la grossesse. Oh, oh tu ne donnes qu'à ta mère. Et moi, je suis quoi? C'est la pauvreté. Si ta soeur de ta mère en avait, est-ce qu'elle allait être jalouse parce que tu as aidé ta maman? Il y a des péchés des pauvres. Et du coup, elle ne te parlait plus. Et elle dit à ses enfants s'ils n'aient plus te parler. Tu es devenu mauvais. Pourquoi? Parce que tu les as aidés 8 fois. La 9e fois, quand ils ont demandé si tu n'en avais pas, ils sont fâchés contre toi. C'est quoi? La pauvreté. Ils oublient toutes les fois que tu les as aidés. Hein? Les chrétiens ne savent pas que la pauvreté compromet le programme de Dieu pour le salut de l'humanité. La pauvreté met les bâtons dans le roue du programme d'évangélisation. L'évangile est gratuite, mais l'évangélisation coûte cher. L'évangile, elle est gratuite. Mais pour évangéliser, ça coûte cher. Amen. Là où tu es assis là, le fait qu'on respire, on n'habite pas ici. On vient dimanche, on rentre. On vient mercredi, on rentre. On vient vendredi, on rentre. 1500 euros. On n'habite pas ici. Hein? Pour le culte, c'est moins les 2 et 3 heures de culte. On rentre, on paye 500. On a acheté toutes ces chaises-là. Amen. Amen. Tous les micros, tout ça, ça coûte l'argent. Tout ce qu'on met. Quand vous voyez les musiciens venir jouer ici, là, on n'a pas de musiciens. On a des instruments, on n'a pas de musiciens professionnels. Chaque fois qu'ils viennent jouer là-haut, 4, 5, quand ils sortent 200 euros qu'on leur donne. Vous comprenez cela? Mais si, vous savez quand, ça fait un peu mal. Imaginez que si on avait beaucoup d'argent, est-ce que ça coûterait quelque chose? On aurait engagé les meilleurs musiciens. Parce que c'est tout ce qu'ils demandent que c'est ça. Des vrais chrétiens, musiciens, ils sont là. il gagne sa vie en jouant la musique pour Dieu, ça paye son loyer, est-ce qu'il va aller ailleurs? Il va rester là. Et tu vas adorer Dieu de la manière dont tu veux que Dieu soit adoré. Amen. Tu vas écouter la parole bien sans stress. Parce que quand je suis en train de vous regarder là, je suis en train de voir, pour certains, je suis en train de voir L. D'autres, je suis en train de voir O sur leur visage. Pour d'autres, je suis en train de voir Y. Pour d'autres, je suis en train de voir E. Pour d'autres, je suis en train de voir R sur leur visage. Je ne sais pas pourquoi. Amen. Alléluia. Des fois, ça part, j'oublie. Mais des fois, quand je suis calme, je vous regarde, je vois L. D'autres, je vois O. Je vois Y. Je vois E, R. Et ça me revient constamment. Ah, à loyer? Ah, c'est ça. Je ne comprenais pas ces lettres. C'est les loyers, Seigneur. On est quelle date là? Le 8. C'est du 8 au mi-temps, pour plus tard au 15. C'est la période où j'ai souri le moins. Amen. Hein? Parce que là, je sors. Je regarde si Angélique est là. Si elle n'est pas là. Alléluia. Je sors, je pars. Pasteur, vous voyez Andy là-bas? Dès que le loyer est payé, je viens là. Alléluia. Angélique, ça va? Et Dieu te bénisse. Parce que le loyer est déjà payé. Amen. Pourquoi? On fait des exercices, on ne sait pas que la vie que nous avons, sans la richesse que Dieu a acquise pour nous à la croix, ce sera une vie en dehors de la vie que Dieu a réservée pour nous. Quand la rentrée arrive, il y a des parents qui n'ont pas les moyens pour payer les frais scolaires ou bien les fournitures scolaires à leurs enfants. Ici encore, l'enseignement c'est gratuit, ça c'est qu'il paraît. Bon, je ne sais pas, mais moi, j'ai des enfants, je paye, mais je ne sais pas pourquoi on me dit que c'est gratuit. Oui, bon, il faut qu'on m'explique ça. Mais en Afrique et un peu partout, il y a des gens pour qui j'ai envoyé les frais pour leur année. Imaginez, quelqu'un qui ne va pas à l'école parce qu'il n'y a pas moyen de payer ses frais. Il y a des enfants ici qui n'ont pas de bourse ici, étudiants qui n'ont pas de bourse, qui m'ont dit que je n'ai pas les moyens de payer les frais. Il y en a ici, scolaires. Quelqu'un qui ne peut pas aller à l'école alors qu'il a la volonté, qui est même si tu es trop français, n'a pas les moyens d'aller à l'école. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Est-ce que tu crois que la personne a la vie qu'elle mérite? Après X années, au lieu de finir un cursus là, dans 3 ans, 4 ans, c'est fini, non? Mais toi, tu finis 6 ans, 7 ans là-dedans, il y en a qui font première année, changent d'option. Première année encore, ils voient, c'est ce qui est première année, parce que les autres années, ils n'avaient pas de moyens. Ils trouvent toujours un moyen pour trouver une inscription, rester quand même sur le territoire français, mais sans pouvoir étudier à l'école où ils voulaient, parce qu'il n'y a pas de moyens. Et tu crois que c'est ma vie. La vie que tu as, ce n'est pas la vie que Dieu avait réservée pour toi si tu avais les moyens. Et tant que tu ne comprends pas cela pour revendiquer cela, tu vivras une vie qui est en dehors de ce que Dieu avait réservé pour toi. J'ai compris qu'il y a une autre vie. En 99, je suis arrivé aux États-Unis et mon père spirituel m'a pris, on est allé suivre une formation des hommes de Dieu, des pasteurs, à Shekinah Again, à Rhema Bible Church, Tulsa, Oklahoma, aux États-Unis. On arrive là, on est venu, d'autres pasteurs étaient là, ils sont venus. Et c'est que bien, notre père spirituel est venu avec ses ministres, moi, les pasteurs Bishop Élisée, avec d'autres ministres qui étaient en formation. On était en groupe là, 12 personnes. On a conduit 18 heures de route de Washington jusqu'à là-bas. On arrive, on est en train de suivre l'enseignement et tout, pendant toute la période de formation. Il y a des pasteurs qui sont venus dans cette formation-là avec leur jet privé. Nous, on a conduit des minivans. Eux, ils sont venus avec leur jet privé en venant d'autres états pour venir être formés. Vous comprenez ça? Nous, on a tapé 18 heures aller. Au retour, on a fait à peu près 23 heures parce qu'on s'est arrêté un peu plus. Mais ils sont venus avec leur jet privé. C'est là que ça a commencé à changer ma mentalité. Ah, donc, il y a des chrétiens qui peuvent être riches comme ça. Aux États-Unis, il y a des millionnaires. Chrétiens millionnaires. Et quand tu viens dimanche à l'église, c'est lui qui est à la porte qui te reçoit, qui te fait asseoir, et c'est eux qui nettoient les chaises, les bancs, des diacres. Ils nettoient l'église. Et quand ils sortent de là, millionnaires, ils ont des complexes d'habitation qui leur appartiennent. C'est-à-dire que c'est comme tout un quartier qui lui appartient. Propriétaire haute, et tel Walmart, là, c'est à lui, tout et tout. Mais millionnaire, quand il vient à l'église, c'est lui qui joue soit à la guitare, soit au piano, il est obéissant au pasteur, à l'homme de Dieu. Il est humble par rapport à ses frères et sœurs. Amen. Et même d'autres gens de l'église travaillent chez lui. Vous comprenez? Mais quand il est à l'église, c'est lui qui nettoie. J'ai vu cette mentalité-là. J'ai dit, oh, eux, ils ont compris cela depuis longtemps. Ils ont compris. Mais nous, eux, sûrement, ils avaient aussi les mêmes problèmes que nous. Amen. Mais comme le réveil a commencé avant chez eux, ils ont le temps de rectifier le tir. Mais nous, on n'a pas encore rectifié le tir. On a des chrétiens qui ont encore la mentalité de pauvreté. Et quand on parle de l'argent, l'argent les dérange. La richesse, ça c'est quoi? C'est par rapport à l'argent, non? Force matérielle, puissance matérielle, pouvoir monétaire, n'est-ce pas? Jésus-Christ, du riche qu'il était, il s'est fait pauvre en fait que nous soyons enrichis. On parle d'une richesse spirituelle peut-être. Est-ce c'est une richesse spirituelle? Là, le verset là, 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Peut-être c'est une richesse spirituelle. Est-ce que Jésus-Christ est devenu pauvre spirituellement? Il est venu riche en argent, mais spirituellement seulement il s'est fait pauvre, c'était ça? Non, il est devenu matériellement pauvre pour nous. Pour que nous soyons aussi matériellement enrichis. C'est dans le plan de Dieu. Parce que la richesse entre les mains d'un païen est un grand danger. Et la richesse entre les mains d'un juste est une grande bénédiction. Amen. La richesse entre les mains d'un juste est une bénédiction. Alors que la richesse entre les mains d'un païen peut devenir une source de malédiction. Un instrument de mort. Il y a des gens, vaut mieux qu'ils restent pauvres pour que la société vive en paix. Amen. Dès qu'ils deviennent riches, c'est le bordel partout, excusez-moi le terme. Amen. Ils brisent les mariages d'autrui, ils vont engrosser les jeunes filles d'autrui parce qu'ils ont les moyens. Dès qu'on les a vus du travail, ils sont devenus pauvres, c'est fini. Leur cercle d'action est limité. Il y a des gens qui ne méritent pas d'être riches. Parce que leur richesse les pousse à faire le mal. Mais les enfants de Dieu, tu as un bon cœur. Tu as appris à aimer ton prochain. C'est pourquoi Jésus a insisté pour nous apprendre à nous aimer les uns les autres. Il a insisté pour que nous puissions avoir l'amour du prochain. L'amour du prochain, là, c'était quoi? Pour préparer nos cœurs à recevoir la richesse et savoir en faire bon usage. Nous, on a l'amour du prochain sans avoir les moyens pour manifester cet amour-là. Amen. Parce que si mon frère, si quelqu'un dit à son frère, je t'aime, et ne lui donne pas de quoi pouvoir se vêtir, couvrir son dos, bien manger, est-ce que cet amour, c'est vraiment l'amour, ça? Non. On dira seulement les bonnes intentions. Oh, j'aurais voulu faire ça pour toi. Le monde dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et la bonne volonté, quand elle existe, est louable par rapport à ce qu'elle a. Car Dieu a aimé qu'il a. Tu ne peux pas dire que tu aimes si tu ne donnes pas. C'est pourquoi Dieu a préparé nos cœurs pour que nous puissions avoir de l'amour. Afin que quand les moyens, la richesse vient, que le monde voit l'amour au travers de ce que nous faisons comme œuvre. Quand Jésus-Christ, dans les miracles, a dit, si vous ne croyez pas en ce que je dis, ce que je suis, croyez au moins à cause de ses œuvres. Il y aura un moment où même les miracles ne tournera plus le monde. Le monde va suivre celui qui pourvoira à ses besoins. Le monde va suivre celui qui mettra quelque chose dans son assiette. C'est pourquoi le monde se prépare à accueillir l'antichrist. Les crises économiques, les récessions que nous voyons là, préparent le monde à une plus grande crise qui viendra bientôt. Plus grave que la crise, le crash boursier de 1929. Plus grave que le crash qu'on a eu, la crise qu'on a eu qui a commencé à 2007 ici, qui a des répercussions jusqu'à aujourd'hui. La crise prochaine sera encore plus grave. Les gens seront licenciés. Vous perdrez vos CDI. Les sociétés seront délocalisées. Mais même en Chine, on délocalise maintenant les sociétés pour essayer de les amener, c'est pas en Inde. Parce qu'il y a les sorts. La Chine était fermée, ils étaient pauvres, ils ne voyaient pas le monde. Maintenant, les Chinois sortent. Vous voyez les Chinois sur les Champs-Élysées, non? Ils apprennent maintenant qu'il y a une autre vie. Quand ils rentrent, ils font des revendications. Le niveau de vie de la Chine commence à monter. À cause du boom économique en Chine, les salaires commencent à monter. Ceux qui fabriquent vos sacs Louis Vuitton là-bas, ils commencent à réclamer un meilleur salaire. Parce qu'ils sont venus sur les Champs-Élysées, ils ont regardé le prix d'un sac Louis Vuitton. Les effets de la mondialisation. Vous comprenez ça? Maintenant, il y aura une telle crise que quand l'antéchrist viendra écouter la prophétie, il va résoudre cette crise-là. Et on le lira comme le président du monde. à part la communauté européenne ici, on est en train de rassembler. Il y aura un seul Parlement européen. D'ailleurs, il y a le Parlement là qui est déjà en fonction à Strasbourg. On aura un seul gouvernement. Un seul Parlement. Et la société des nations va se réunir. Même les autres nations, ils vont se réunir. Les États-Unis, les autres nations, Fédération de Russie, tous les autres là, la Ligue arabe, pour avoir un seul gouvernement mondial. Et c'est cet homme-là qui va résoudre la crise mondiale là, qui sera élu, qui va gérer. Il sera jugé digne de gérer le monde. Et c'est pendant ce moment-là qu'il y aura le signe 666 pour on va imposer aux gens ce signe. Si tu veux avoir de l'aide, si tu veux avoir le droit d'acheter ou de vendre pour avoir une carte bancaire, il n'y aura plus de cartes, il y aura des puces. C'est alors que ça va se manifester. Ça va se faire maintenant. Nous sommes en voie. Pourquoi? Parce que ces gens-là vont apporter la société. Mais avant que cela se manifeste, l'Église va vivre la gloire et l'Église doit être enlevée. Parce qu'il y a certaines ces persécutions-là que nous, on ne doit pas assister à cela. Avant que l'Église soit enlevée, l'Église doit être capable d'influencer sa génération. Une Église pauvre n'influence personne. Une Église pauvre se contente de laisser les gens aller en enfer. Amen. Alléluia. Nous gesticulons, parlant en langue, il y a des gens qui meurent autour de nous. Il y a des émissions qui ne valent pas la peine d'être suivies, qui sont en train de passer maintenant. Mais ces gens-là ont eu l'argent pour payer leur heure d'antenne. Mais les églises de réveil, les églises qui connaissent la vérité, on n'a pas les moyens de passer à la télévision. On n'a pas les moyens de mettre les bons programmes sur Internet. On n'a pas les moyens d'avoir les bons supports. On n'a pas les moyens d'aller. Quand il y a eu un tremblement de terre en Haïti dernièrement, John Travolta est descendu là-bas avec le jet privé. Leur grand avion là, de l'aide de l'église de Scientologie. Il est venu avec l'aide de l'église de Scientologie et c'est lui-même qui a piloté l'avion. Il est venu apporter le don de l'église de Scientologie aux Haïtiens. Maintenant, s'ils ouvrent une succursale là-bas pour accueillir les gens, est-ce qu'ils ne vont pas avoir des fidèles? Mais nous, on fait quoi? On est là pour comparer nos vidéos, nos prédications, pasteur contre pasteur, prophète contre prophète, docteur contre docteur. On est là pour faire des choses. Même les gens qui sont bêtes dans l'église, on voit que l'église, quand il y a 200 personnes, c'est trop grand. Il faut que ça se divise encore. Au lieu de gagner le monde, les chrétiens ont tellement une mentalité de bassesse et de pauvreté qu'ils laissent passer les gens aller en enfer à côté. Parce qu'ils ne comprennent pas. Si nous ne sommes pas riches, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, pardon. Parce que la parole ne peut pas mentir. Lisons le deuxième verset. C'était quoi? Galates chapitre 13. Excusez-moi, Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Dans 5 minutes, je finis. Galates 3, 13 à 14. Là, vous déclare quoi? Ah! Il y a des versets, quand tu lis ça bien, tu comprends bien, ça t'énerve. Hein? Tu as une sainte colère contre toi-même, contre ta vie. Tu te révolutionnes contre la vie que tu vis là. Amen. Lisons un peu. Galates 3, verset 13 à 14. Là, vous déclare: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Résultat, c'est quoi, verset 14? Tout le monde a lu en français? Ça va. Laissez-moi, je vais lire avec ma version. Amen. Hein? J'ai cru entendre une version en bambara là-bas. Je vais lire. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que, il est devenu malédiction, pourquoi? Afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens. Les païens, c'est nous qui étions païens. Son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous, là, nous recevions par la foi l'esprit qui avait été promis. Amen. Jésus-Christ est devenu malédiction en fait que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement en nous. Au travers de Jésus. Maintenant, c'est quoi la bénédiction d'Abraham? Amen. Alléluia. Là, on a lu que Christ s'est fait pauvre en fait que nous soyons enrichis. On a lu que Christ est devenu malédiction. Il a été maudit à la croix en fait que nous soyons. Oh, les Africains sont maudits. Si on vous dit que les Africains sont maudits, dites-leur, nous avons la solution pour l'Afrique. Amen. La solution pour l'Afrique, c'est Jésus. Parce que Jésus-Christ est devenu malédiction pour que nous, les Africains qui étions maudits, nous, les Français qui étions maudits, nous, les Gaulois qui étions maudits, nous, les Chinois qui étions maudits, nous, les Japonais qui étions maudits, nous soyons bénis en Christ. Aucun peuple ne peut se plaindre, « Oh, j'ai été maudit. » Non, il y a la solution. Quand on trouve la solution, on ne se préoccupe plus du problème, on cherche comment appliquer la solution. Amen. Quelqu'un a perdu la clé. Quelqu'un dit, oh non, j'ai une clé passe-partout. Mais non, pourquoi tu veux ouvrir? Moi, j'ai déjà demandé la clé. Tu veux dormir dehors ou bien tu veux entrer chez toi? Entre, peut-être la clé est restée dedans. J'ai la clé. Non, moi, je veux savoir pourquoi quelqu'un a perdu la clé. Non, on a la solution. Amen. Hein? Appliquons la solution. On vous a proposé la solution, vous cherchez, oh, on est venu avec l'évangile, on nous a menti, oh, l'Égypte était le premier. Oh, bien aimé, la solution est là maintenant. Si nous avons été maudits, nous tous, maintenant nous sommes bénis en Jésus. La solution. Pour que la bénédiction d'Abraham, il n'y a aucune bénédiction qu'on a prononcée à un homme qui dépasse la bénédiction qu'on a prononcée sur Abraham. Alors maintenant, pour lire la bénédiction d'Abraham, là, c'est quoi? Genèse chapitre 12. Tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui cherchait Genèse. C'est pourquoi j'avais dit, Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Pas juste quand je suis pasteur, je vois tout le monde. Premier livre de la Bible, Genèse chapitre 12. C'est normal. Peut-être qu'il y a un musulman ici qui s'est converti. On ne va pas vouloir qu'il prie. Hein? On ne va pas lui demander de connaître les livres de la Bible. Toi, tu ne connais même pas les sourates du Coran. C'est normal. Si tu vas à la mosquée, tu ne connaîtras rien. Genèse chapitre 12, verset 1er, là, déclare, l'Éternel dit à Abraham, sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Ah, c'est au verset 2 que ça commence à devenir bizarre. Là, je crois que Dieu exagère. On dirait que Dieu exagère. Hein? Dieu, on dirait, il c'est l'exagération. Comme disent les mamans, qui va nous marcher dans mon pays, exagération. Il commence à dire quoi? Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Le positionnement. Je vous ai parlé, le terme de mon message, c'est la bénédiction et le positionnement. Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. Quand Dieu te bénit, quand Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que tu sois enrichi, le but c'est que tu puisses avoir la bénédiction d'Abraham en toi. La bénédiction d'Abraham, Dieu a dit à Abraham quoi? Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Si ton nom devient grand, on connaîtra également celui qui soutient ton nom. Pourquoi les gens ne s'intéressent pas à Jésus? Parce que c'est un rassemblement de pauvres qui viennent se mettre ensemble pour gesticuler. Dans des hangars comme ceci. Regardez comment je suis en train de transpirer. Regardez vos têtes, comment vous êtes en train de transpirer. La lumière se réfléchit sur vos fronts qui transpirent et ça me fait mal pendant que je suis en train de prêcher. Attends, je vais mettre mes lunettes. Parle d'un temple de francs-maçons sur les Champs-Élysées. Tu verras comment c'est bien climatisé. Oh, notre Dieu est plus grand. Non, leur Dieu a manifesté la grandeur parce que ces gens l'ont compris. Mais les chrétiens ne veulent pas comprendre. Ils veulent s'attacher aux choses viles. On dirait que être pauvre, c'est un don. C'est pas un don spirituel, être pauvre. Il n'y a pas le parlant langue, hein, interprétation des langues, vision, prophétie et puis don de pauvreté. On n'a pas reçu le don de pauvreté. Sortez de cette mentalité catholique, mensongère, hypocrite, que les ceux qui devaient servir dans la prêtrise devaient faire vœu de pauvreté. Mais ils amassaient les richesses du monde entier. Amen. Le Vatican était riche alors que ceux qui composent ont fait vœu de pauvreté. Arrêtez de nous mentir. Amen. La pauvreté n'est pas un don. Dis, la pauvreté n'est pas un don. Amen. Oh, quel est ton don? La prophétie. Toi, ton don, la vision. Toi, ton don, le parler en langue. Toi, l'interprétation des langues. Toi, le don de la foi. L'autre, don des miracles. Et l'autre là, don de pauvreté. Hein? Amen. Et comment on va bouger le monde? Ce n'est pas à partir d'un hangar comme ça qu'on doit bouger le monde quand même. Alléluia. Un moment, il faut sortir. Et les choses que Dieu a faites vont attirer les gens. Et on doit voir que Dieu est avec nous dans tous les domaines. Amen. On ne veut pas avoir la richesse physique sans avoir la richesse spirituelle. Non. On ne veut pas aussi avoir la richesse spirituelle sans avoir la richesse physique. Non. Ce n'est plus le temps où l'Église devait se cacher. C'est fini ce temps-là. L'Église doit être visible. Dès Abraham, Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Écoutez, Abraham était la préfiguration de ce qui doit arriver à l'Église. Amen. Alléluia. Amen. Sors de ton pays. L'Église, c'est Ecclésia. Amen. Hein? L'ensemble de ceux qui sont appelés pour sortir d'eux. Ils sont où? Ils sortent du monde. L'Église, l'ensemble de ceux qui sont rachetés, appelés à sortir du monde. Ecclésia. C'est l'exemple type d'Abraham qui a été appelé à sortir de son pays, de sa patrie, de la maison de son père, d'aller là où Dieu va le montrer, sortir. Ecclésia. Et Dieu a dit qu'il rendra notre nom grand. Toi, en tant qu'individu dans l'église, tu es le temple du Seigneur, ton nom doit être grand. On doit connaître ton nom. Parce que quand on connaît ton nom, on connaîtra ton Dieu. C'est pourquoi les gens qui voulaient prier le Dieu d'Abraham, ils ne connaissaient pas ce Dieu-là. Ils ne connaissaient pas Yahweh Jireh. Le seul nom qu'ils connaissaient, quoi? C'est le Dieu d'Abraham. Amen. Le Dieu des Hébreux s'appelle comment? Le Dieu d'Abraham. Si Abraham était un inconnu, qui connaîtra son Dieu? Oh, vous priez qui? Osis. Oh, Horus. Isis. Osiris. Non. Oh, Shiva. Oh, Dagon. Oh, Baal. Non. Nous prions le Dieu d'Abraham. Il veut qu'on parle de ton Dieu. Le Dieu de Samuel El Wabantu. Mets ton nom. Le Dieu de Samuel El Wabantu. On doit connaître le nom de ton Dieu. C'est ça le positionnement. Quand Dieu te bénit, il t'élève. Il a dit, je rendrai ton nom grand. Il continue. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Alléluia. Ceux qui feront des affaires avec toi seront bénis. Amen. Ceux qui t'engageront dans leur service seront bénis. Ceux qui vont te proposer le CDI seront bénis. Ceux qui vont te prendre dans leur appartement seront bénis. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te